Radio Kapi.
À la une, l'arrivée cet après-midi à Bukavu de la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, va compatir avec les staffs de la MONUSCO évacués de Goma vers Bukavu cette semaine, soit plus de 1600 personnes, personnels et dépendants. Élections 2023 en RDC, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, déjà en ordre de bataille, l'opération d'enregistrement des membres a démarré hier à Lubumbashi. À l'occasion, Katumbi a plaidé pour la solidarité de tous vis-à-vis des populations meurtries de Goma. Et puis, l'invité de ce soir, Jean-Pierre Ilboudo, représentant de l'UNESCO en RDC, cette agence onusienne appuie la mise en œuvre de tout un programme visant l'encadrement et l'amélioration des conditions sociales des artistes congolais, révélation faite en marge de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Sud Kivu. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC est arrivée cet après-midi à Bukavu. Madame Bintou Keïta est allée compatir avec les staffs de la MONUSCO évacués de Goma vers Bukavu ces trois derniers jours. La chef de la MONUSCO s'est dit satisfaite d'avoir réussi à sauver des vies de plus de 1600 personnes en l'espace de deux jours. Elle encourage le personnel de la MONUSCO en détresse à veiller surtout sur l'encadrement des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité. Madame Bintou Keïta, au micro de Denise Loukesso.
Je suis venue pour montrer ma solidarité, ma compassion et mon empathie et de dire que les conditions dans lesquelles le personnel de la MONUSCO a voyagé, elles sont les mêmes conditions que les populations du pays ont voyagé parce que les routes, ce sont les routes telles qu'elles sont. Et encore, même avec de l'appui de nos contingents qui ont fait de leur mieux, ce qui est important maintenant, c'est que la vie a été sauvée. Nous avons plus de 1600 personnes entre le staff et leurs dépendants que nous avons fait bouger de Goma dans les conditions qui étaient celles de Goma. Donc bien évidemment, il y aura des couacs, c'est normal dans ce genre de situation où il faut répondre en urgence, mais les systèmes vont se mettre en place. Et donc ce que je demande, c'est que malgré les frustrations, malgré les difficultés, il faut juste comprendre que personne n'était préparé et qu'on est en train maintenant d'ajuster tous les systèmes pour qu'ils puissent vivre au mieux, malheureusement, cette expérience traumatisante.
Notez que Madame Bintou Keïta est accompagnée de son adjoint Kassim Diagne ainsi que du tout nouveau chef de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Marcos de Sa Alfonso da Costa. Madame Bintou ira ensuite à Goma pour suivre la situation sur le terrain. Entre-temps, au Maniema, le centre Viens et Vois a organisé ce week-end une journée de jeûne et prière en faveur des populations de Goma déstabilisées par l'éruption du volcan Nyiragongo. Dans un entretien avec votre radio, le représentant légal et visionnaire de cette église dit croire que Dieu sauvera Goma à travers les justes qui y habitent. Bishop Félix Pogno, au micro de Florence Kizalunga.
À ce qui concerne la situation qui se passe à Goma, nous avons compris que cette situation s'est déjà passée aussi dans la parole de Dieu. À l'époque d'Abraham, il a été contacté par trois personnes qui sont venues chez lui. Ces trois anges ont mangé. Après, ils vont lui révéler les secrets qu'ils allaient brûler les deux villes, Gomorre et Sodome. Alors maintenant, Abraham a commencé, on peut dire, à négocier. Il dit, mais s'il y a 50 personnes justes, ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des évêques, des pasteurs qui s'élèvent ou de quoi que ce soit. Il cherche des hommes et des femmes qui soient justes. Parce que la prière d'un juste a une grande efficacité. C'est ainsi que Dieu répondra à Abraham que s'il y a 50 justes, je ne peux pas brûler. Il a négocié jusqu'à 40, jusqu'à 10 personnes. Il dit non, je vais sauver la ville à cause de 10 justes. La présence d'un juste dans une famille, dans une église, dans un pays, elle peut sauver beaucoup de choses. C'est comme ça que nous avons dit, même si Goma a un mauvais témoignage par rapport à l'insécurité grandissante, donc le nord qui vous disons, et même l'Ituri, mauvais témoignage, parce que c'est là qu'on tue, qu'on égorge chaque jour qui passe. Nous allons demander au Dieu qui a créé Nyiragongo et Nyamulagira de pouvoir intervenir, que cette nuit, les laves puissent être enterrées.
Politique à présent. Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, se range en ordre de bataille et se prépare pour les élections de 2023. L'opération d'enregistrement des membres a démarré hier à Lubumbashi. Le président d'Ensemble pour la République en a profité pour lancer un message de paix et de cohabitation pacifique. Jean Gandou nous en parle.
Pour ce premier jour du lancement des activités d'enrôlement des membres, c'est une foule immense qui a accompagné Moïse Katumbi jusqu'au lieu de la cérémonie à la Cité des Jeunes dans la commune annexe à Lubumbashi. Entouré de ses proches collaborateurs, Moïse Katumbi, qui a reçu en premier la carte de membre d'Ensemble pour la République, a, au cours de son adresse à ses sympathisants, demandé de travailler dans l'harmonie en bannissant le séparatisme, le tribalisme, le règlement de comptes, ainsi que de toutes les différentes antivaleurs, surtout de ne pas se fier sur tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Par contre, il les a encouragés à cultiver l'amour. Parlant justement de l'amour, il a demandé à tout le monde d'être solidaire vis-à-vis des populations meurtries de Goma dans le Nord Kivu. Bien avant cette cérémonie, il a clôturé le séminaire de renforcement de capacité organisé au bénéfice des représentants d'Ensemble pour la République venus de toutes les 26 provinces. Après 2 jours de travaux, chacun d'eux a reçu les emblèmes du parti et autres matériels pour son implantation et l'enregistrement de membres avec le regard tourné vers 2023. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Justice. Le procès en appel du dossier 100 jours de Vital Kamerhe débute demain lundi à la Cour de cassation à Kinshasa. À l'issue d'une réunion sur la situation politique de l'heure du pays, les membres du comité interfédéral de l'UNC Maniema demandent l'implication personnelle du chef de l'État pour que Vital Kamerhe soit relâché avant de clamer son innocence, disent-ils. Écoutez à ce sujet Steven Wakusomba, rapporteur adjoint de l'UNC Maniema, propos recueillis par Florence Kizalunga.
C'est contenu du procès en appel de notre leader qui commence ce lundi. Nous, militants et cadres du parti politique Union pour la Nation Congolaise, INC en sigle, demandons l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'acquittement sans condition de notre autorité du parti INC. Il s'agit de l'honorable Docteur Vital Kamerhe Lwakanyingini, condamné injustement par la justice congolaise dans le procès 100 jours. À ce fait, nous demandons à la justice congolaise d'être l'église au milieu du village. Donc, l'interfédération du Maniema réitère son soutien indéfectible à son président national. Nous citons l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingini.
Rendons-nous à Bukavu. Nous apprenons que près de 50 maisons ont été incendiées hier dans les communes de Kadutu et Ibanda. L'origine du feu n'est pas connue. Toutefois, il a été maîtrisé par les jeunes des quartiers concernés. Le bilan fait état de plusieurs biens consumés. Le récit de Emmanuel Elameji Wakabedi.
Le premier cas d'incendie s'est déclaré samedi soir au quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda. Une vingtaine de maisons de l'avenue Irambo 2 sont parties en fumée et tous les biens rendus en cendres. Il a fallu l'intervention des jeunes du quartier pour détruire 5 autres maisons afin d'empêcher la propagation du feu vers les maisons voisines. Les constructions anarchiques et la promiscuité restent tout de même à la base de cette situation. Ceci est un énième cas d'incendie de maison dans ce quartier Nyalukemba faisant de sans-abri. Toujours dans la nuit de samedi à ce dimanche, près de 30 autres maisons ont pris feu au quartier Nkafu en commune de Kadutu. La société civile dit avoir dénombré une trentaine de maisons et des dizaines de sans-abri. Julien Namegabe de la société civile.
C'était aux environs de 20h que le feu a commencé. Et si nous avons identifié d'abord 29 familles sans abri, il y a des familles, 3 familles qui accueillaient déjà les gens en provenance de Goma. Et voilà que les enfants sont sans abri, les mamans, les papas, ils sont sans abri jusqu'à maintenant.
La ville de Bukavu ne dispose pour l'instant d'aucun véhicule anti-incendie pouvant intervenir en pareil cas. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Butembo, carence des bananes plantains sur le marché local depuis plus de 2 semaines. Katembo Kasai, président de la coopérative des dépositaires des produits vivriers, CODEPROVI en sigle, justifie cette situation par l'inaccessibilité aux zones d'approvisionnement due à la recrudescence des cas d'incursion dans ces zones. D'après lui, actuellement la ville de Butembo reçoit difficilement 20 tonnes de bananes plantains par semaine contre plus de 50 tonnes il y a plus de 2 semaines. Conséquence, le prix de vente d'une même quantité de bananes plantains varie d'un marchand à un autre. Katembo Kasai explique au micro de Florida Kahambu.
Le problème est dû à la sécurité. Avant, on arrivait à transporter même plus de 50 tonnes par semaine de bananes. Mais aujourd'hui, même 20 tonnes, c'est vraiment tout un problème. Parce que les bananes qui nous arrivent viennent en moto. Ce ne sont pas les véhicules qui prennent ça en charge. Si nous avons un peu de bananes, ça provient peut-être du côté de Buyinga, là où nous encaissons une petite quantité. Dans le Lubero, justement, et au niveau de Mabalako, quelques produits, mais pas vraiment très suffisants. C'est la cause pour laquelle, si aujourd'hui le prix des bananes parvient à un prix très élevé, c'est suite à la sécurité. Jusque là, le temps de siège que nous attendons vraiment impatiemment, c'est la cause pour laquelle nous pouvons demander à notre gouvernement d'intervenir à temps opportun parce que c'est vraiment difficile de pouvoir s'approvisionner dans les milieux où les soi-disant halou existent. C'est tout le monde qui a fui les champs.
Santé. La situation de la tuberculose est catastrophique et effrayante dans le Maïndombe. De janvier à mars 2021, plus de 1000 cas de cette maladie ont été dépistés dans l'ensemble de la province avec plusieurs décès. Le médecin coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose au Maïndombe l'a fait savoir hier lors d'une matinée scientifique organisée à Inongo. C'était dans le cadre des activités en marge de la journée mondiale contre la tuberculose, manifestation à laquelle ont pris part plusieurs personnalités provinciales. Irène Mbouma, reportage.
Le docteur José Monama, médecin coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose au Maïndombe, a fait savoir au cours de cette matinée scientifique que près de 1200 cas de tuberculose ont été dépistés rien qu'au premier trimestre de l'année en cours dans cette province. Selon lui, les communautés de toutes les 14 zones de santé du Maïndombe sont concernées par ces fléaux. Il déplore notamment l'insuffisance de matériel et du personnel bien formé pour une bonne prise en charge de cette maladie. C'est dans cette optique que José Monama plaide pour les renforcements en ressources matérielles afin de mener à bien les activités de lutte contre la tuberculose au Maïndombe.
Avec 47 centres de santé de dépistage de la tuberculose, où déjà 17 machines sont en panne, donc avec 30 machines, nous sommes arrivés à dépister autant de malades. Dans des conditions où vous n'avez pas des ressources, où vous n'avez pas du personnel assez bien formé, c'est pour dire que la situation qui prévaut dans la communauté est pire. Voilà pourquoi nous avons démontré pour que, au niveau des organes de décision, que les équipements et les ressources soient orientés ici. Pourquoi ne pas créer un fonds de lutte contre la tuberculose?
Signalons qu'en 2020, la province du Maïndombe avait notifié 3728 cas de tuberculose avec 70 décès. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction Kikwit. Les enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2 se disent victimes de ce qu'ils appellent injustice et manque de considération de la part du gouvernement congolais. Dans un entretien, le président de l'intersyndicale déplore le fait que les enseignants de la ville de Kikwit ne reçoivent pas, comme ceux des autres villes, les frais de transport et de logement inclus dans les salaires. Benoît Kachama plaide pour la mécanisation des enseignants nouvelles unités et pour l'uniformisation des salaires. Il a été joint par Irène Boma.
Le grand problème pour nous, c'est d'abord qu'on arrive à payer toutes les nouvelles unités. Même celles qui sont au secondaire, pendant tout ce temps, les autres ont touché le transport et le logement, avec un salaire un peu supérieur au nôtre. Mais nous, à Kikwit, nous avons souffert. On nous a pas donné le transport ni le logement. Nous, on aimerait que la paye soit uniforme pour l'ensemble du pays. S'il y a des avantages sociaux à donner, qu'on les donne à tout le monde. Vous n'êtes pas sans ignorer que Kikwit, c'est une ville vraiment importante. Donc, on ne pouvait pas nous priver le transport et le logement. Je trouve qu'on nous considère pas. On nous considère pas parce que nous ne voyons pas pourquoi cette différence-là, pourquoi on nous avait privé le logement et le transport. Moi, je pense que c'est une injustice. Si vraiment on veut que l'enseignement soit amélioré dans ce pays, c'est d'abord question d'entretenir l'enseignant correctement. Tout le reste viendra de façon automatique. Nous ne manquons pas des enseignants compétents. Mais le problème se trouve au niveau du salaire alloué à l'enseignant. C'est un salaire de misère.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Nigeria. 14 étudiants de l'université Greenfield du nord-ouest du pays ont été libérés hier par leur ravisseur après 40 jours de captivité. Libération confirmée par le porte-parole de la police nigériane, mais difficile de savoir si cette remise en liberté a été obtenue contre le paiement d'une rançon, le porte-parole de la police n'ayant pas fourni des détails à ce sujet. Cependant, 5 de ces étudiants ont été tués par les ravisseurs afin de contraindre les autorités nigérianes à mettre la main à la poche. Cet enlèvement est le 5e enregistré dans l'état de Kaduna en l'espace de 5 mois. Depuis décembre 2020, en effet, 730 enfants et étudiants ont été enlevés au Nigeria. Un sommet mondial sur le climat et la croissance durable organisé par la Corée du Sud a ouvert ses portes pour 2 jours. Des discussions virtuelles participent à cette réunion 60 chefs d'État, des hauts responsables gouvernementaux ainsi que les dirigeants d'organisations internationales. L'objectif du sommet est d'inclure les pays en développement dans la lutte contre le changement climatique.
L'invité.
L'UNESCO appuie la mise en œuvre de tout un programme visant l'encadrement et l'amélioration des conditions sociales des artistes congolais, cela en collaboration avec des structures existantes comme la SONECA. Le représentant de l'UNESCO en RDC l'a révélé à Radio Kapi dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, journée célébrée le 21 mai de chaque année. Jean-Pierre Ibildo s'entretient à ce sujet avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Jean-Pierre Ibildo, bonjour.
Bonjour.
Le 21 mai dernier, la communauté internationale a célébré la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. On parle déjà de la Semaine culturelle africaine de l'UNESCO. Alors, monsieur le représentant, qu'est-ce que c'est la diversité culturelle et quel est son rapport avec le dialogue et le développement dans le cas de la République démocratique du Congo, par exemple?
Alors, je disais que la diversité culturelle est un programme majeur de l'UNESCO, en ce que nous avons pu rédiger une convention, dite convention de 2005, sur la promotion et la protection des expressions de la diversité culturelle. Cette convention de l'UNESCO a été signée par 195 pays membres pour dire que la diversité culturelle ne peut pas être un problème. J'allais dire en termes de différence entre sexes, entre genres, entre ethnies, mais c'est plutôt une richesse extraordinaire. Et cette richesse extraordinaire, c'est lorsqu'ensemble nous pouvons engager des... La diversité culturelle est basée sur ce que nous avons aussi comme autre programme à l'UNESCO, c'est la culture de la paix. Elle contribue donc à créer cette culture de la paix. Et laquelle culture de la paix est basée sur quoi? Sur la tolérance, sur la non-violence en général, sur la solidarité humaine, sur la compréhension mutuelle entre les gens.
Et comment cela peut conduire au développement?
Vous savez que sans paix, il n'y a pas de développement. Vous voyez la situation à l'Est. Tout ce qui est entrepris ne peut pas marcher parce qu'il n'y a que des conflits, il y a la guerre, etc. Or, si on avait le respect de la dignité humaine, des valeurs et des différents groupes sociaux qui existent dans cette partie du Congo et du Congo en général, mais on serait en train de faire un développement réel, un développement durable.
La pandémie Covid-19 a affecté beaucoup de secteurs de la vie, notamment ici en République démocratique du Congo. Et quel est, selon vous, monsieur le représentant, l'impact de cette pandémie sur la diversité culturelle, notamment sur la chaîne des valeurs, de la valeur créative notamment, et du tourisme culturel, en RDC particulièrement?
La Covid a touché d'une manière négative. L'impact était tellement fort et négativement fort sur la culture en général, comme vous l'avez si bien dit, les industries culturelles, le tourisme, l'hôtellerie a été le plus frappé par la Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faudrait penser à la résilience des artistes. Et nous avons lancé un grand programme qui s'appelle Resil Art, donc les arts. Donc ça veut dire quoi? Que donner les moyens aux petits artisans qui produisent donc des objets d'art pour qu'ils puissent se remettre encore à travailler. C'est un grand programme que nous sommes en train de lancer depuis bientôt un an sur les filières pour que vraiment ce secteur soit un secteur porteur. La contribution du secteur culturel sur le PIB de nos pays, c'est énorme. Il y a des pays qui font un peu 60% de leur PIB avec les aspects culturels, les aspects touristiques, etc.
Un tel programme demande aussi des moyens. Et qu'est-ce que vous avez fait pour apporter quand même cette aide ou ce soutien aux artistes congolais?
Ok, nous sommes en train de travailler sur la création d'une mutuelle. Une mutuelle, on ne veut plus voir les artistes congolais au firmament de leur gloire avec leur musique, brusquement devenir des gens dans les bars en train de manger une bouteille de bière. Donc, la grande question en ce moment, c'est la question de la mutuelle pour qu'ils aient un minimum de salaire décent par mois. Mais, qui est plus important, les royalties, les droits d'auteur, nous travaillons là-dessus. Il faut qu'on arrête de pirater les CD, qu'on les vende devant les supermarchés, que les droits d'auteur permettent aux artistes congolais d'être vraiment à l'aise. On est en train de travailler donc à mettre en place vraiment un bureau congolais des droits d'auteur avec une participation de la police, de l'armée pour qu'on arrête les piratages.
Et là, vous travaillez avec des structures qui existent déjà comme la SONECA?
Oui, c'est une nationale, c'est eux qui sont avec nous, la SONECA, et aussi il y a une nouvelle structure que le cinéaste Baloufou a créée, qui est également son. Mais il faut qu'on fédère tout le monde.
Messieurs les représentants, je vous remercie.
Merci à vous et bonne chose à notre radio Okapi, la meilleure des radios.
Voilà, c'était là notre invité, le représentant de l'UNESCO en RDC, Jean-Pierre Ilboudo, était avec Jean-Pierre Elali Koko. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba. L'actualité continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de nous rester fidèles. Okapi Sport continue avec Dieudonné Joseph Kabeangalula.